Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Bana bele mina pende kutala mwana na kuti mwana mobala tomoli maboko likolo elimbo ya soja ya mpiko mosala tata na ngaye asalaka tata e loti sanga samboto nazangi komba kopesa mwana tata e tata yo 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 apesa ya tatombo na yo tata e toyi na yo kesumba mombo na ikitana epo e ya papa na mama na yo na vida yo ndele sala toujours kulele benediction ya papa na mama na yo embo na vida yo ndele sala sonze kino moto apoka na ntamba ko sukita e nzete na lo ni na lo pango nga nzete mimi na lo pango mo suswe nzete yango Bombo na ngosungo sungwe Moto akokana ntamba kosukisa e Kengi naloni nalopango nanga Nete bilisi yango nalopango mosuswe Nete yango bombo na ngosungo mentine Nopeke vietalite Nga moto ya familia Yo mokongo ya fami, ikonzi esizi mama na bande kubayo Bango bakolo tambora elongo Tata ee, tata yo 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 Mwana kulie, mama ee, mama nyondo zonga omona Nende jinyore akulie, tata ee, tata nanga kekumba Koko akola e, mama e, mama nyonde se kwa pomo na u, inde jinyore apoma e.
En Bougimaï, sur 93,8.
Et merci de nous suivre à Mbujimayi, car depuis 1992, l'Union européenne finance des programmes dans le secteur de la santé au Kasaï oriental. Cette intervention de l'institution européenne se justifie par des difficultés qu'éprouve ce secteur, notamment le délabrement des infrastructures ainsi que le manque d'équipement. Alors, raison pour laquelle deux structures de santé ont bénéficié de ce soutien à travers les ONG internationales. Mais quels sont les autres projets de financement que l'Union européenne se propose de réaliser dans le secteur de la santé? C'est peut-être la question que nous allons poser bientôt à notre invité, Carlo Di Filippi, qui est ambassadeur de la délégation de la Commission européenne. Mais en attendant, on va retrouver Julien Niamoini depuis Mbujimayi, car on aura certainement d'autres précisions avec lui sur cette question. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission en nous envoyant vos SMS au 081 070 2050. Pour ceux-là qui souhaiteraient faire des témoignages à cette émission, vous êtes aussi les bienvenus. Vous nous appelez à notre numéro de téléphone, celui-là est le 081 890 63 94. Et pour vous qui nous suivez sur Internet, sur www.radiocapi.net, pourquoi ne pas nous envoyer un email à action@radiocapi.net. Voilà, je crois que tout est beau et qu'on peut démarrer cet entretien avec Julien Niamoini depuis Mbujimayi. Betouabou, Julien Niamoini.
Betou, maman, Nicole.
Malokai.
Malomimpe.
Julien, pouvez-vous nous parler, nous rappeler, ne fût-ce que brièvement, les structures de santé du Kasaï oriental qui ont bénéficié de l'appui de l'Union européenne?
Oui, deux structures de santé ont bénéficié de l'appui de l'Union européenne. Il s'agit de l'hôpital général de référence de la Mouya et du centre hospitalier du Kolela. Il faut également ajouter sur cette liste la mise en place d'une centrale d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels au Kasaï oriental, en sigle CADMECO, toujours avec l'appui de l'Union européenne. Cette dernière structure permet aux centres de santé et hôpitaux de s'approvisionner à moindre coût en médicaments. Cet appui, je le disais, ne s'est pas fait directement aux structures, mais par l'intermédiaire de deux ONG internationales, Oxfam et COPI, les coopérations italiennes et britanniques, qui se sont chargées de l'encadrement logistique et administratif. Écoutons les explications du docteur Michel Mouloré, gestionnaire de projets de santé à l'Union européenne.
À partir de 1994-95, l'Union européenne a entamé une aide d'urgence à la population congolaise. Et cette aide avait concerné surtout les structures de santé de base. J'entends les centres de santé, les hôpitaux généraux de référence et les bureaux-centres. Quand nous intervenons dans une zone de santé, notre aide était adressée vers les réhabilitations des bâtiments, ensuite vers les équipements médicaux et non médicaux, vers l'approvisionnement en médicaments, vers la motivation du personnel, les prix, les formations du personnel et vers les supervisions.
Ok, donc là c'était les explications du docteur Michel Mouloré, qui est gestionnaire des projets de santé à l'Union européenne. Nous avons retenu, Julien, qu'il y a deux structures de santé qui ont bénéficié de l'appui de l'Union européenne, notamment l'hôpital général de référence de la Mouya et du centre hospitalier Toudi Kolela. Mais dans quel contexte faut-il situer cette intervention de l'Union européenne?
Écoutez Nicole, cette intervention s'inscrit dans le cadre de programme d'appui transitoire au secteur de la santé, ce qu'on appelle les programmes PAC. Ce sont des programmes d'urgence qui étaient venus en remplacement de programmes de développement de 1990, une rupture liée, on s'en souvient, à l'affaire du massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi. L'Union européenne avait alors suspendu toutes ses aides au développement.
Ok, donc finalement, quel était l'état de l'hôpital général de référence de la Mouya avant qu'il y ait une reprise de l'intervention de l'Union européenne?
Oui, écoutez, les témoignages concordent sur le fait que l'établissement était dans un état de délabrement très avancé. Il ne répondait à aucune norme en vigueur. Délabrement de murs, du sol, literie, sanitaire, salle opératoire, instruments, pharmacie, tout était largement obsolète. Écoutez, cette description du docteur Soumoula Chimanga, médecin directeur de cette structure de santé de Mbujimayi.
À mon arrivée, il y a déjà une année, quelques mois, à l'hôpital n'était pas équipé, on manquait de tout. C'est grâce à l'Union européenne que nous avons eu un équipement complet de la salle d'opération. Nous avons eu un appareil d'échographie, nous avons eu les lits, le matelas, nous avons eu le drap. Bref, nous avons eu tout ce qu'il faut pour que l'hôpital puisse fonctionner. Et c'est grâce à l'Union européenne. Nous sommes passés pour les consultations. La moyenne dans le passé était de 3-4. Aujourd'hui, la moyenne de consultation journalière atteint même 30 malades, 30 nouveaux cas par jour. Et il y a de ces jours que nous recevons 60 nouveaux cas par jour. Ça veut dire que cet apport est très positif et c'est grâce à l'Union européenne que l'hôpital de la Moula est parmi les grands hôpitaux.
Oui, donc finalement, l'assistance de l'Union européenne tombe vraiment à temps, hein, parce que sinon l'hôpital allait faire carrément faillite et fermer ses portes. Alors comment se présente aujourd'hui cette institution médicale de Mbujimayi?
Oui, Nicole, je me suis rendu dans cet hôpital. Il faut dire que ce n'est plus un mouroir, comme certains malades m'ont dit. C'est un hôpital complètement réhabilité, réhabilitation également de la maternité, remise des équipements de laboratoire, matériel d'échographie et une capacité d'accueil de 42 lits contre 2 il y a un an. Ce n'est toujours pas suffisant. On voit des lits sont placés, qui campent dans les couloirs, faute de place dans les chambres. Mais cela traduit aussi une augmentation du taux de fréquentation que l'on observe depuis la réhabilitation.
Donc ça veut dire que avant qu'il n'y ait réhabilitation par l'Union européenne, les habitants de Mbujimayi ne fréquentaient plus cet hôpital. Et aujourd'hui, malgré qu'il y ait eu cette assistance, il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que du moins les malades sont satisfaits de cet appui?
Oui, Nicole, je vous propose d'écouter le témoignage d'un malade que j'ai rencontré à l'hôpital. Il s'appelle Alexis Kabeya.
Auparavant, c'était très sale, des bâtiments mal propres. Et on ne soignait même pas les gens convenablement. Tout était vraiment bizarre. Il n'y avait même pas de médicaments à l'hôpital. Vous pouvez entrer ici et attendre qu'on aille chercher, même des seringues, il n'y en avait pas. Et les lits n'étaient pas bien soignés, étaient mal propres, les draps très sales et tout ça. Mais nous voyons quand même un changement après la réhabilitation. Il y a des médecins qui soignent, ils sont près de malades pour le moment, à chaque instant, pour savoir l'état de chaque malade. Et ils sillonnent partout, à chaque moment, après chaque 10 ou 30 minutes, ils doivent passer et consulter les malades, tout ça. Nous sommes bien quand même traités.
Là, c'est le point de vue d'un malade hein, que vous avez rencontré, Alexis Kabeya. J'invite également tous ceux qui nous suivent à travers le pays, notamment en Mbujimayi, de réagir dans cette émission. Envoyez-nous déjà maintenant vos SMS au 081 070 2050. Julien Yamouni, ce malade, vous l'avez rencontré dans l'hôpital de référence?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que tout marche maintenant dans ce secteur de santé, particulièrement dans cette institution?
Non. Lors de l'évaluation du secteur de santé ici en Mbujimayi par l'Union européenne, un membre de la délégation a fait valoir que malgré ses soutiens dans la phase transitoire, le problème d'utilisation des services médicaux persiste encore. Plusieurs causes, il a cité d'abord la pauvreté générale qui empêche les patients de payer les soins. Ensuite, il y a l'absence de la motivation du personnel. Ce sont des réalités que l'Union européenne a pris en compte et qu'elle transmettra au 9e FED qui prend le relais. Et en clair, l'Union européenne a mis fin au programme transitoire pour s'orienter vers des programmes de développement. Et c'est un changement de stratégie majeure, les retours à la coopération structurelle est attendu l'année donc prochaine, mois de juin après les élections. Mais je voudrais dire que 9e FED, c'est le Fonds européen de développement dont je faisais allusion tout à l'heure. Voilà tout, Nicole, pour ce dossier.
Merci beaucoup, Julien Nyamouni, de nous avoir proposé ce grand dossier aujourd'hui dans cette émission. Je rappelle à vous tous qui nous suivez là-bas à Mbujimayi, réagissez vraiment dans cette émission en envoyant vos SMS au 081 070 20 50. Toi, ça qui dit là, Julien Nyamouni.
Toi, ça qui dit là, mon Nicole.
Au Capi, fréquence de la paix.
Vous avez suivi tout à l'heure l'entretien qu'on a eu avec Julien Niamoni. Il nous a décrit en long et en large comment concrètement la réhabilitation au niveau des centres hospitaliers s'est faite, comment les habitants réagissent, surtout les malades qu'il a eu à rencontrer dans certains centres de santé, notamment l'hôpital général là-bas à Mbujimayi. Ce serait bien d'avoir vos réactions. Beaucoup d'entre vous déjà ont réagi dans cette émission. Continuez à réagir parce que notre invité est déjà là. Carlo Di Filippi, ambassadeur de la délégation de la Commission européenne, est là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, nous faisons le point avec lui. Bonjour, M. Carlo Di Filippi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Capi. Alors, la première est celle de savoir, parce que tout à l'heure, on a suivi le point que Julia a eu à nous faire pour ce qui concerne la ville de Mbujimayi. Mais quels sont les autres projets de financement que l'Union européenne se propose de réaliser dans le secteur de la santé?
Bon, tout d'abord, permettez-moi de dire que c'est pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui, du fait qu'on parle de quelque chose qui a trait à la santé et, comme on dit dans les jargons du développement au secteur social, qui est tout à fait particulier et auquel l'Union européenne tient beaucoup dans le cadre de sa coopération avec la République démocratique du Congo. Nous avons arrêté, a été dit dans les services, la coopération en 1992-92, mais en effet, comme est constaté aussi, nous n'avons jamais arrêté d'intervenir dans les secteurs sociaux. Les deux programmes qui ont été mentionnés, c'est en effet, bien que la coopération institutionnelle s'est été suspendue, a permis de continuer à intervenir là où la population en avait plus besoin. Et pour moi, c'est une grande satisfaction et honneur d'entendre que, en effet, on a obtenu des résultats. C'est vrai aussi que, comme il a été dit, qu'il reste beaucoup à faire. C'est pour cela que l'Union européenne reste engagée à intervenir dans ce secteur, aussi dans le futur. Mais sans pour autant, et ça je voulais bien le dire, arrêter. Les programmes se sont terminés parce que leur financement est terminé, mais on a quand même assuré dans ces derniers mois, entre l'achèvement des programmes d'appui transitoire à la secteur de la santé et les nouveaux programmes qui ont été mentionnés et bien faits, un petit pont à travers des fonds qui sont dans le cadre d'un transfond avec la Banque mondiale. On a continué à faire des actions minimales pour ne pas arrêter et capitaliser, si je peux dire ainsi, tout ce qui avait été fait avant.
Oui, mais concrètement, vous avez assisté ceux de Mbujimayi, mais quels sont les autres projets de financement que l'Union européenne se propose de réaliser?
Dans le cadre de la santé, oui. Nous avons ce grand programme de 80 millions d'euros dans le cadre de notre coopération structurelle, le 9e Fonds européen de développement. Si vous avez suivi, la convention de financement a été signée il y a une dizaine de jours par les autorités congolaises. Le projet est déjà lancé dans le sens que toutes les opérations de préparation sont en cours et devraient intervenir même, je peux dire, avant le juin de l'année prochaine, comme il a été dit, après la transition. Qu'est-ce qui concerne ce projet?
C'est ça qui intéresse les auditeurs.
Qu'est-ce qui concerne ce projet? C'est un projet très important qui, naturellement, il ne couvre pas que les Kasaï, mais il couvre les deux Kasaï, mais la province orientale et le Nord Kivu. Les deux Kasaï, le Nord Kivu et la province orientale. Donc là, déjà, vous voyez quelle surface va couvrir et quels sont les objectifs. Ben, les objectifs principaux, c'est d'un côté, et ça répond un peu à des soucis qui se sont sortis dans les interviews, renforcer la tutelle du ministère de la Santé. C'est-à-dire, le ministère de la Santé, la santé, c'est d'abord une question sociale et publique. Donc, le ministère de la Santé doit pouvoir avoir des structures pour venir, pour faire face aux besoins de santé, donc accueillir aussi les gens qui cherchent. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, renforcer les structures, c'est-à-dire permettre aux médecins, au personnel médical de travailler dans de bonnes conditions et pouvoir donner...
C'est l'un des objectifs, mais j'aimerais quand même que vous précisiez une chose, si vous le permettez. Vous avez dit que vous comptez également intervenir au Nord Kivu, dans les deux Kasaï, en province orientale, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Concrètement, c'est, je suis en train d'expliciter, quand on dit renforcer les structures de santé, c'est-à-dire rendre les structures du ministère de la Santé, à travers les hôpitaux de référence, les centres de santé, en personnel et en moyens, structures, donc moyens de travail, aptes à augmenter le nombre de soins qu'ils peuvent pratiquer, donc avoir un accueil plus grand en termes d'espace, donc sur plus de lits, mais aussi en termes de qualité des soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est chercher pour faire des soins, il faut des médicaments. Et donc, vous savez, a été légèrement dit, particulièrement dans la province de Kasaï orientale à Bujimaï, une centrale de médicaments, d'achat de médicaments et de distribution a été mise en place avec l'aide de l'Union européenne dans le cadre des projets précédents. On a aussi lancé d'autres centrales de médicaments dans le Nord Kivu et dans le Bas-Congo. On compte développer davantage. Développer, ça veut dire rendre ces centrales d'achat et de distribution viables à long terme. Ça veut dire ils pourront, dans le temps, acheter les médicaments, les vendre dans la distribution et avec ce qui est leur revenu, réapprovisionner les stocks.
Ça pourrait se faire éventuellement, mais ce n'est pas encore confirmé.
Non, ça peut se faire dans le sens que un des objectifs du projet, c'est que rendre viable économiquement la distribution des médicaments.
Mais vous savez, les auditeurs qui vous suivent vont se dire, c'est bien de faire cette proposition-là, ce projet-là est très bon. Mais dans bien des cas, on constate qu'il y a toujours des problèmes, surtout quand il y a, par exemple, une assistance en médicaments. Les bénéficiaires ont l'impression que, vraiment, ça n'arrive pas à qui de droit. Dans bien des cas, ces médicaments sont détournés. Est-ce que vous avez pensé à cela?
Mais non, mais ça, c'est clair que on a pensé à cela. Les médicaments, comme toute œuvre humaine, doivent être gérés avec un bon père de famille. C'est-à-dire, quand on met en place une structure, on met en place une gestion. Et la gestion doit permettre d'éviter les détournements. Naturellement, c'est clair.
Il y aura un suivi.
Il y a un suivi, c'est clair. Mais je voulais compléter l'approche pour ce qu'on va faire de concret, parce que c'est bien mettre en place les médicaments, c'est bien mettre en place les structures, c'est bien chercher de faire en sorte que le personnel qui travaille là soit qualifié et soit payé, mais les malades...
Excusez-moi, je vous coupe, parce que vous dites beaucoup de choses intéressantes, alors les auditeurs réagissent en fonction de cela. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour que le personnel soit réellement payé?
Les dispositions, en effet, nous, on a mis dans notre convention, et on verra qu'il soit appliqué, que le gouvernement doit mettre en place les moyens qu'il faut pour pouvoir payer les personnels. Et nous verrons que soit ça fait. C'est-à-dire, ce n'est pas le projet qui va à payer, mais le projet va contribuer pour faire en sorte que le budget qui est établi pour les paiements des salaires soit vraiment décaissé et payé au personnel de la santé, comme dans d'autres secteurs.
Donc ce n'est pas l'Union européenne qui va payer le personnel soignant.
Non, on ne peut pas payer le personnel soignant qui est personnel de l'État. C'est clair. Nous, on pourra, dans notre appui, on devra former, recycler. Alors, là sont toutes des actions, mais les personnels doivent être payés par l'État. Mais il y a une chose très importante. Pour que le système soit bouclé totalement, qu'est-ce qui est important? Que les citoyens qui approchent pour avoir des soins puissent recevoir ces soins. Et donc, à terme, pour que le système soit viable, il faut qu'ils payent pour ces soins.
Mais
alors,
se pose justement.
Alors, vous savez mieux que moi que les moyens sont faibles, donc le projet prévoit la mise en place donc des services préventifs gratuits, mais aussi des services curatifs moyennant le paiement d'un ticket modérateur forfaitaire.
C'est-à-dire, soyez plus clair.
Ça veut dire un ticket modérateur forfaitaire pour dire la personne paye quelque chose, mais qui ne correspond pas au service. Donc il y aura une subvention pour pouvoir permettre au départ au système d'être lancé. Et à terme, à fur et à mesure que le système fonctionnera et qu'il y aura des moyens, à fur et à mesure, les gens pourront avoir, s'il y a développement, payer plus et donc être un système qui s'est auto-finance tout seul.
Oui,
c'est
tout
un
ça.
Peu le principe du système de prévention des maladies et des systèmes qui est en place dans beaucoup de pays.
Tout ça a l'air bien beau, hein, mais vous savez, c'est déjà opérationnel hein, pour le cas de l'hôpital de référence là-bas à Mbujimaï. Et vous avez suivi tout à l'heure le point de Julien. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour payer leurs frais médicaux. Alors, comment concrètement ça va fonctionner pour le cas de l'hôpital général de référence là-bas à Mbujimaï?
Concrètement, sur un cas spécifique,
un exemple parmi tant d'autres.
L'exemple, c'est, je dis, de mettre en place un système où les malades ne puissent contribuer avec une petite somme qui est à la portée des
revenus. Somme fixée par l'hôpital ?
Si, qui sera fixée. On ne l'a pas fixée ni nous, ni au niveau global, mais sera fixée en fonction des différentes spécialités. Et dans le cadre justement du projet, en examinant tous les différents coûts et des prestations, et dans le cadre du programme, est prévu un fonds pour créer cette ticket modérateur qui permettent de compenser la différence que la personne ne pourra pas payer. Et ça, c'est le démarrage. C'est comme mettre un fonds de roulement pour faire démarrer un système.
Tout voilà. À fait. Mais ça n'a pas encore démarré pour l'instant.
Non, ça, hein. C'est le nouveau programme qui est en cours. Ça, c'est la nouveauté de notre nouveau programme. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'État? On a cherché de faire en sorte que les gens puissent approcher le système de santé, même avec tout pris en charge. Maintenant, il faut qu'on fasse un pas vers la viabilité du système.
On va voir comment ça va concrètement fonctionner.
J'espère, tout le monde...
Pour l'instant, on ne sait pas encore hein, comment ça sera. Oui, on dit petite somme, mais on ne voit pas très bien.
Tout ça, c'est, je répète, le projet n'est pas démarré sur le terrain. Il est en train de la phase de lancement. Tout l'année prochaine, quand il sera démarré, que les choses seront plus connues et définies dans les différentes spécificités et détails techniques, on pourra être beaucoup plus précis sur comment c'est long, et naturellement, la population sera informée.
Oui. Monsieur Carlo Di Filippi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui vous suivent à travers le Congo. J'ai au moins une dizaine de SMS ici, des réactions des auditeurs, notamment JP Wandi, qui vous suit depuis Kinshasa, et qui dit, est-ce que ces travaux sont effectués en collaboration avec le ministère de la Santé ou encore du TPAT de notre pays?
Oui, ben, je l'ai dit tout à fait en premier lieu, les premiers objectifs est celui de renforcer la tutelle du ministère de la Santé. Pourquoi? Comme a dit l'intervenant de Boujimaï, le programme avant a été mis en place par des ONG, qui sont des entités privées, mais pas l'État. Là, on veut que maintenant l'État prenne la relève et fasse le même type.
Mais quel est l'appui de l'État congolais finalement?
Mettre en place, mettre à disposition le personnel et les payer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est ça. Alors, pour répondre à M. Libéba Serge depuis Kinshasa, qui dit pourquoi seulement au Kasaï? C'est vrai que vous avez cité également le Nord Kivu, les deux Kasaï, la province orientale, même le Bas-Congo, j'ai retenu.
Le Bas-Congo, on intervient déjà, mais le nouveau programme en particulier interviendra sur cette région. C'est déjà vaste, vous savez. La province orientale, c'est une des plus grandes provinces du pays. Les deux Kivu et les deux Kasaï font une grande surface de ce pays qui est déjà très vaste. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'étendre sur tout le pays, sinon on risque de ne pas avoir l'impact que le projet cherche d'avoir.
C'est ça, mais lui, il insiste plus pour Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est ici dans le lot?
Kinshasa, vous savez, il faut dire que dans le cadre de la coopération internationale, ce n'est pas qu'il existe un bailleur, on est plusieurs bailleurs, on a un rôle aussi de coordination et de complémentarité entre bailleurs, et vous, bon, je peux citer facilement la Banque mondiale qui a un gros programme santé dans les pipelines, qui est déjà prouvé, qui sortira ou qui est déjà
donc sorti. Finalement l'Union Européenne n'est pas vraiment présente pour le secteur de la santé, à Kinshasa.
À Kinshasa, non, mais on est présent dans les autres et il y aura d'autres qui seront présents. Et ça, c'est un travail, et ça, je dois le dire, ça, parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que les pays doivent jouer la coordination de l'aide des donateurs et chercher de les faire intervenir là où il y a des trous, où il y a des besoins plus forts. Voilà, c'est ça un peu
c'est ça. Alors, c'est peut-être la réponse que vous pourrez donner aussi à Dr Mayele depuis Kinshasa, qui dit l'Union européenne ne peut pas aussi s'investir sur l'hôpital général de Kinshasa. Ça, c'est non, parce que vous avez dit que Kinshasa n'est pas ciblé.
Je ne dis pas non, je dis pas dans le cadre de ces programmes. La coopération, ça ne se termine pas avec un programme isolé. Nous avons une stratégie qui est dans les 9e FED. Bientôt, on va déjà parler de ce qui se passera après le 9e FED et on verra.
On va peut-être terminer avec les trois dernières questions. Vous savez, il faut donner la parole aux auditeurs. Madame Germaine, depuis Guado, qui dit « Cette action ne s'arrêtera qu'en Boujimaï ou bien l'Union européenne envisage autre chose sur toute l'étendue de la RDC ?» Vous avez précisé que ce n'est pas seulement Boujimaï, c'est aussi le Nord Kivu, les deux Kasaï, province orientale et puis le Bas-Congo. Et puis les deux autres questions des auditeurs, notamment de Joseph Chibwabwa depuis le Lubumbashi, qui dit « Actuellement, pourquoi tous les projets sont financés par l'extérieur ?» Notre gouvernement, de son côté, a déjà fait quelque chose au social. Cela ne constitue pas une tutelle pour notre nation. Est-ce que le financement, est-ce qu'il est remboursable ou bien il est c'est gratuit, donc c'est bénévolement? Ça, c'est Joseph Tshibaba qui vous pose la question depuis le Lubumbashi.
Maintenant, tout d'abord, je réponds à la dernière question qui est plus facile. Notre aide est totalement et 100% en don. Tout ce qui est dans le cadre de du Fonds européen de développement, donc l'accord de Cotonou, c'est du don de l'Union européenne aux pays ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, et dans ce cas le Congo. Alors, en ce qui concerne le financement du pays de la République démocratique du Congo, ça, je pense que cette question est très pertinente. Je pense que tout pays doit participer à son propre développement. Il existe la coopération internationale et je crois que c'est très légitime et que va même au-delà de ce qui peut être le bon cœur, c'est-à-dire la coopération internationale a un rôle à jouer important dans le cadre des stratégies internationales, des relations entre les différents groupes géographiques du monde. Je me réfère à l'Union européenne, l'Afrique, les pays ACP. Mais je crois qu'il faut trouver des formules et que nous cherchons d'ailleurs davantage à développer des partenariats. Le partenariat est basé sur chacun contribue. Alors, si nous contribuons financièrement, les pays doivent contribuer sous l'autre forme. Je viens de dire, là, la mise en place du personnel, les paiements des salaires, ben ça c'est une contribution. C'est vrai que les gens doivent être payés, mais être payés pour réaliser quelque chose qui est...
Mais ça c'est la moindre des choses. Hein.
C'est la moindre des choses.
Oui. Mais ça c'est pas un financement, c'est pas un appui.
Oui, mais... Quand vous savez que vous avez des situations où les gens ne sont pas payés du tout et que le système est totalement en délabrement, c'est déjà un premier pas. Et là, on veut franchir ce premier pas pour, et ça, je ne m'arrêtais pas là, pour franchir un deuxième, un troisième, que c'est celui d'arriver à quoi? À que d'un côté, l'État finance dans les secteurs sociaux et si vous voyez l'exigence de tous les bailleurs, c'est que les dépenses sociales doivent augmenter, ce qu'ils appellent dépenses pour pauvres.
Carlo Di Filippi, je suis vraiment obligé de vous couper la parole, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va terminer par une dernière question d'un auditeur qui s'appelle Passion, qui nous suit ici à Kinshasa, et qui dit c'est bien que l'Union européenne puisse s'investir à la santé, mais cette aide, est-ce que réellement elle va servir comme elle se doit par les responsables? Vous savez, ce problème-là est souvent posé par nos auditeurs, chaque fois qu'il y a aide, chaque fois qu'il y a don, est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait un détournement de ce don? C'est ça la grande question.
Moi, je peux être ferme sur cette question. Je dis non, notre aide n'est pas détournée. La preuve est, matériellement, ce qui a été dit par les malades, par les gens qui travaillent à l'hôpital général de Boujimaï, par votre correspondant.
Pour l'instant, tout est beau.
Oui, non.
Tout est rose, pour l'instant.
Bah non, c'est pas tout est rose. Il faut être réaliste. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
Oui.
Il y a des choses qui se réalisent. On est content de voir quand les choses se réalisent. Il y en a d'autres qui se réalisent, mais avec difficulté. Rien n'est facile. Mais je crois que l'aide de l'Union européenne, il n'est pas détournée. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un partenariat et nous collaborons du début jusqu'à la fin avec les autorités.
Carlo Di Filippi, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la délégation de la Commission européenne. Merci et à la prochaine.
Merci et bonne journée.
Au Kapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Kapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Kapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.